personne. Voilà, donc on voit bien que l'organisation du territoire est aussi une réponse, et je terminerai avec un autre exemple qui démontre comment on peut gérer les choses collectivement. L'aménagement, la conception peut être une réponse qui permet de faciliter la gestion des eaux pluviales, même dans des environnements particulièrement difficiles. On est sur des perméabilités qui sont de l'ordre de 10-7 mètres par seconde. En plus, pour la petite histoire, nous sommes aussi sur des secteurs qui ont été affectés par des affaissements miniers, ce qui fait que l'exutoire actuel de ce parc d'activité est repris par une station de relèvement des eaux qui appartient à l'État, Charbonnage de France, BRGM maintenant, et qu'il était bien sûr impensable de redimensionner la station de relèvement, parce que tout redimensionnement aurait entraîné, ipso facto, un transfert de la propriété de la station de relèvement et ses coûts de fonctionnement à la collectivité. Voilà, donc c'est un parc d'activité qui fonctionne aujourd'hui depuis 30 ans. Sur le cas d'étude suivant, là on est sur de la réhabilitation de boulevards, des boulevards périphériques sur la ville de Douai, 40 000 habitants dans le nord. Donc ces boulevards sont en fait, en gros, très grossièrement, l'ancien tracé des fortifications de Vauban de la ville de Douai, pour vous situer un petit peu les choses. C'était des boulevards tout à fait classiques, avec très fortement arborés, comme on peut les connaître dans beaucoup de boulevards parisiens notamment, avec des platanes, etc. Et donc cette réhabilitation qui n'a pas entraîné la reconstruction des structures de chaussées, parce qu'elles étaient des anciennes routes nationales ou départementales, donc des structures très, très solides. Donc on n'est pas parti sur de la chaussée à structure réservoir. Et la volonté, bien sûr, était de conserver une végétalisation des espaces. Et donc, la conception a été de penser à calpinage, de sorte à prévoir des bouquets d'arbres, comme on les voit sur la photo, et des zones de stockage et d'infiltration des eaux par des structures alvéolaires ultra-légères, dont vous voyez une petite illustration sur la petite photo en bas à droite. Donc un compromis entre les différents objectifs, en sachant qu'on est là sur des boulevards à 10 000, 20 000 véhicules jour, avec un itinéraire qu'on voit exceptionnel, donc beaucoup de contraintes, impossibilité de couper tout le trafic, donc c'est un chantier qui s'est réalisé en trois phases successives, et donc du coup qui guide également les choix techniques qu'on doit ici prendre en compte. Voilà sur ce que je peux dire là-dessus, et donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne aujourd'hui très bien. Alors, changement complètement aussi de contexte. La photo de droite, c'est une route départementale. Il y a un lycée qui est un lycée professionnel qui est à la gauche, là où on voit le vélo. Il y a d'autres établissements scolaires à proximité immédiate, et donc un trafic vélo assez important et une volonté du département du Nord et de la ville de Douai de mettre en sécurité cette circulation vélo. Ah, donc, réalisation d'une piste cyclable de part et d'autre, sauf que cette voie était bordée par des fossés. Et donc, la solution initiale qui a été présentée par le département du Nord, par les services du département du Nord, consistait à buser le fossé pour pouvoir construire la piste cyclable au-dessus. Donc nous sommes intervenus en tant que conseillers en disant non, il est hors de question de buser ce fossé parce que on est, si je le buse, je le rends imperméable. Et ce secteur-là se situe à proximité tout à fait immédiate d'un quartier où on est à moins de 500 mètres d'un quartier qui a connu 5 inondations sur 5 ans dans les années 1990, fin 80, début 90, dans le Douaisis, et qui est à l'origine du changement de politique de gestion des eaux pluviales de la région de Douai. Et donc, hors de question d'imperméabiliser supplémentairement pour aggraver une situation qu'on arrivait à grand-peine à conjuguer. Et donc, la solution, c'était, ben dans ce cas-là, il faut racheter du terrain pour reconstituer le fossé à côté et de pouvoir faire la piste cyclable là où le fossé initialement était présent. Et on leur a dit, mais non, on a une solution qui va vous permettre de ne pas devoir exproprier des terrains supplémentaires et donc de perdre un minima 2 ans, mais on va garder la fonction de stockage et d'infiltration du fossé en dessous de la piste cyclable à l'emplacement même du fossé existant. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a utilisé? Eh bien, c'est ce que vous voyez un petit peu sur la photo en médaillon à gauche, on appelle des chambres d'infiltration. Alors, c'est pas des structures alvéolaires ultra légères, c'est des systèmes un petit peu différents. Et donc, qui nous permettent d'avoir une capacité de stockage largement suffisante par rapport à la capacité de stockage du fossé initialement, de garder la fonction d'infiltration, de pouvoir finalement avoir un espace multifonctionnel, puisque c'est une piste cyclable et c'est aussi un ouvrage hydraulique en dessous, et ce, avec une réalisation qui économise 2 ans de perte de temps et des économies à la fois de foncier et des économies financières. Voilà, conjugaison véritablement d'enjeux très différents, ou opposés initialement, et qu'on voit que l'on peut résoudre ensemble à partir du moment où on se met tous autour de la table et qu'on partage ces objectifs qui peuvent être initialement divergents. On peut passer à l'exemple suivant, qui alors, on va changer complètement d'échelle. On est sur la création d'un parc d'activité de 100 hectares dans un secteur qui s'appelle, on était sur les terres agricoles, et on est sur un secteur où on pompe dans la nappe phréatique qui est presque sous-jacente une quantité d'eau potable très importante, puisque sur quelques kilomètres, on a 3 séries de captages qui cumulaient pompe annuellement l'équivalent de 20 millions de mètres cubes d'eau potable par an. Alors pour vous donner un peu un ordre d'idée, 20 millions de mètres cubes d'eau potable, c'est la consommation de 500 000 habitants. Alors, là aussi, dualité, besoin absolu de protéger cette nappe phréatique. On est sur des limons, sur une très faible couche de limon classique sur craie, donc nappe fragile, peu protégée naturellement, géologiquement. Donc besoin de protéger cette nappe, mais aussi besoin d'alimenter la nappe pour préserver la quantité d'eau disponible pour les captages d'eau potable. Eh bien, on a réussi à tenir cet enjeu malgré la construction de bâtiments, comme vous le voyez, important. Le petit bâtiment au premier plan de la photo, ça, vous voyez qu'il y a une petite tour jaune qui vous indique le type d'occupant, c'est Amazon. On est sur un bâtiment d'un seul tenant, 100 000 m², donc 10 hectares, sur une parcelle qui fait 23 hectares. Eh bien, on ne sort pas une seule goutte d'eau pluviale du secteur, tout est infiltré, mais avec une organisation un petit peu particulière, de façon à garantir à la fois donc, l'infiltration de l'eau, mais aussi la qualité de ce qu'on infiltre pour ne pas polluer la nappe phréatique, source d'eau potable très importante. Alors, comment on a organisé ça? Eh bien, les diapositives suivantes vont illustrer mes propos. On a organisé les choses de telle sorte que ce soit la collectivité qui assure la gestion des eaux pluviales présentant des risques. Alors, ce qui est important au milieu d'activité, c'est de considérer que les types d'eau, c'est-à-dire qu'en fonction des surfaces sur lesquelles elles tombent, elles vont présenter des risques plus ou moins importants de pollution ou pas de risque de pollution du tout. C'est le cas des toitures, on n'est pas sur des activités économiques très fortement polluantes, on est surtout sur de la logistique, et donc pas d'émissions gazeuses à travers les toitures. les eaux de toiture sont infiltrées directement par des systèmes de noues, bien qu'on ait des surfaces donc, de 100 000 m² d'un seul tenant. Pour tout ce qui est parking de voirie légère, où là, comme Thierry l'a dit tout à l'heure, la concentration en polluants est finalement très faible et le sol naturel a une capacité naturellement à dépolluer cette eau dès lors qu'on est sur des concentrations et donc des volumes, des concentrations et donc des flux très faibles, eh bien on infiltre là aussi directement. Par contre, là où il y a des risques, à la fois de pollution un peu plus importante, mais aussi des pollutions accidentelles, tout ce qui est poids lourd, zone de circulation de poids lourd, et bien là, on va donc devoir collecter ces eaux, les traiter avant de les infiltrer. Et comme, non pas qu'on n'ait pas confiance dans le monde économique, mais on sait que les objectifs du monde économique ne sont pas forcément une même pérennité que les objectifs d'une collectivité, eh bien c'est la collectivité qui a pris en charge la conception et la réalisation et l'entretien et l'exploitation des ouvrages de gestion de ces eaux qui peuvent présenter une pollution. Bien sûr, aux frais de l'activité économique. Mais c'est elle qui, au regard de ses propres objectifs, mais aussi ceux de l'administration, notamment DREAL, installation classée, donc qui assume la gestion et donc la qualité de ce qui va se passer. Alors, bien évidemment, sur la voie publique, c'est la collectivité qui gère les choses. Donc voilà un petit peu comment on peut aussi, avec des activités présentant quelques risques, eh bien, garantir à la fois des objectifs divergents, tout en assurant une pérennité et un bon contrôle des choses, et ce, dans le temps. Voilà. Alors, quand on crée un parc d'activités, on ne sait pas qui va venir s'installer, et donc, dans le cahier des charges de création de la ZAC, d'une part, mais aussi dans le cahier des charges de cession de terrain, le CCCT, on définit les grands objectifs qu'il faudra viser par celui qui va venir s'installer. Le tout étant bien évidemment précisé dans le cadre du dossier loi sur l'eau et du dossier ICPE, compte tenu des activités qui s'installent. Voilà, donc une maîtrise des choses par une organisation. Il y a de la technique, mais il y a aussi de l'organisation qui peut être mise en place de façon à avancer et de faire en sorte qu'on puisse conjuguer des objectifs qui peuvent paraître inconciliables, divergents. La diapositive suivante, et je crois qu'on a... Alors voilà un petit schéma un petit peu sur comment on a organisé la gestion des eaux pluviales de voiries lourdes privatives. Donc une collecte, un bassin de rétention qui va permettre de faire du traitement. Alors au niveau de la collecte, on est sur du tuyau classique avec des bouches d'égout, mais qu'on équipe de façon d'avoir un pré-traitement déjà efficace, donc une partie décantation obligatoire et une partie filtration. Et la conjugaison de ces deux effets permet d'avoir donc un abattement des matières en suspension efficace et absorber sur ces matières en suspension déjà une bonne partie des hydrocarbures potentiels. La partie rétention est équipée d'une zone qu'on appelle en eau morte, c'est-à-dire une zone toujours en eau, qui va augmenter la capacité de décantation des eaux qui vont y être stockées. Et bien, on sort des liquides.